Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT. Après 3 tentatives infructueuses aux Jeux olympiques, la Rémoise s'est parée d'or sur la colline des Lancours en Yvelines. Les géographes l'appellent la colline de la revanche. C'est un monticule artificiel de 231 mètres de haut où l'on a entassé il y a un siècle les déchets des Yvelines et les gravats des villes nouvelles. Pauline Ferrand-Prévot y a trouvé ce qu'elle était venue chercher, une revanche sur le sort olympique et la médaille d'or. Sur cette petite montagne boisée d'Île-de-France, dans la commune des Lancours, la Française a évacué 10 ans de frustration, ponctuelle au rendez-vous qu'elle s'était fixé. Plus qu'une course, une obsession vers laquelle elle a pédalé mécaniquement sur sa machine, creusant un abîme entre elle et ses concurrentes. Un joyeux vacarme accompagnant sa chevauchée solitaire. Sa dauphine, l'américaine Hayley Batten, levait les bras 3 minutes plus tard, comme si elle avait remporté la course des humaines. Sur son nuage, Pauline Ferrand-Prévot était déjà enveloppée sous un drapeau tricolore, derrière la ligne, enlaçant famille et entraîneur, prélude à un déluge de larmes. Depuis 8 mois, la championne s'était imposée selon ses termes et avait constitué une bulle hermétique, mettant sollicitations médiatiques, marketing et réseaux sociaux en sommeil. Elle l'a percée à l'occasion pour y inviter ses parents, comme lors de son dernier stage en altitude, dans les Alpes, en juillet, simplement pour faire comprendre l'ampleur des efforts consentis. Le premier des 7 tours du parcours a été plus qu'un tour de chauffe, un quart d'heure de politesse accordé par Pauline Ferrand-Prévot à ses adversaires, 13 minutes durant lesquelles elle laissait le soin à sa rivale, la néerlandaise Puk Pieterse, d'ouvrir la route en compagnie de l'autre favorite française, Loana Lecomte. Il en coûtera aux 2 accompagnatrices précoces de Ferrand-Prévot, chacune étant boutée rapidement hors du podium, Pieterse par une crevaison, Lecomte par une chute. Loana Lecomte, partie fort elle aussi, mais rejointe par 2 concurrentes pour la 3e place, a lourdement chuté dans la partie technique de la descente sur les pierres. Tombée sur le menton, elle a été évacuée sur une civière. Après des examens médicaux rassurants, elle était de retour sur le site des Lancours en fin d'après-midi, sans séquelles apparentes. Après 13 minutes de course, Pauline Ferrand-Prévot se met en danseuse, fait l'extérieur à Pieterse, se rassied dans un virage, en épingle, et allume le moteur au pied de la montée. La course est terminée. VTT, cyclocross, route, la champenoise rafle tout dans les catégories juniors, empile les maillots de championne du monde. Elle porte déjà sa longue natte sur le côté gauche, qui deviendra caractéristique. Ferrand-Prévot s'exile dans une équipe néerlandaise, la Rabobank, qui fait vœu de professionnaliser le cyclisme féminin. Elle s'impose comme une prodige multicarte, devenant et détenant à 23 ans les 3 titres mondiaux en route, VTT et cyclocross, une première dans l'histoire de son sport. Mais la mécanique s'enraye. Ferrand-Prévot se perd un peu entre les différentes disciplines, renonce à choisir. Elle n'a pas vécu, mais ne pense déjà plus qu'au podium olympique et à ses anneaux tatoués depuis 2012. À 20 ans, à Londres, en 2012, elle avait terminé 26e. À Rio, 2016, elle s'aligne sur route et en VTT, échec à nouveau. Elle ne va plus quitter l'objectif olympique de vue et délaisse à l'approche des Jeux de Tokyo 2021, la route pour le seul VTT. Ferrand-Prévot, plus grande athlète que pilote, n'est pourtant pas la mieux taillée pour l'exercice, ose rappeler ses entraîneurs, qui soulignent ses limites techniques. La course olympique de 2021 à Tokyo illustre cette relative faiblesse. Ferrand-Prévot chute dans une montée de pierre. De ce 3e échec au jeu, elle refuse de conclure à une malédiction olympique, mais décide de changer, étape par étape, une organisation jusqu'alors complètement centrée sur elle. En 2023, la Française signe pour l'équipe britannique Ineos, plutôt spécialisée dans le Tour de France et le cyclisme masculin. Changement de décor et d'ambiance, staff pléthorique, souci de la nutrition poussée à l'extrême, entraîneur partagé avec le double champion olympique masculin, Tokyo 2021 et Paris 2024, le Britannique Tom Pidcock. C'est bien, mais c'est trop. À l'automne 2023, Pauline Ferrand-Prévot accuse une énorme fatigue. Elle fait le ménage dans son entourage et son calendrier, ne conserve que l'entraîneur, un mécanicien, son préparateur mental et quelques courses vécues uniquement comme des préparations au rendez-vous du 28 juillet 2024. Avec ses deux psychologues, elle tente de transformer la pression du rendez-vous olympique en motivation. Après l'or de Pauline Ferrand-Prévot, un autre Français, Victor Koreski, a frôlé le titre olympique en terminant à la deuxième place de la course, homme, derrière le champion olympique en titre, Tom Pidcock. Koreski a raté de peu la médaille d'or qui semblait d'abord inatteignable, puis lui tendait les bras. Pauline Ferrand-Prévot et Victor Koreski ont en commun d'avoir tous deux roulé sur route à haut niveau et de s'être focalisés sur le VTT pour préparer les Jeux de Paris 2024. La densité du VTT français qui provoque une guerre des places en sélection est aussi avancée comme un facteur d'explication de cette pluie de médailles. Après l'or de Pauline Ferrand-Prévot et malgré la déception née de la chute de Loana Lecomte, la France est encore dominatrice dans ces Jeux olympiques, dans cette discipline. Pauline Ferrand-Prévot et Victor Koreski corrigent une anomalie, l'absence de médaille française lors des deux derniers Jeux olympiques et reprennent le fil d'une histoire cousue d'or. Cette histoire était née avec la médaille de bronze d'un jeune, Miguel Martinez, à Atlanta en 1996, première apparition des gros mollets du vélo vert, comme on disait alors. Puis, trois titres d'affilée chez les hommes, Miguel Martinez et Julien Absalon deux fois. Et le relais, assuré par les femmes, Julie Bressé à Londres 2012 et Pauline Ferrand-Prévot ici à Paris en 2024. Avec l'argent de Jean-Christophe Perrault à Pékin en 2008 et celui de Victor Koreski, la bassine à médailles du VTT français déborde. Le voisin suisse, dont le territoire est un exceptionnel terrain de jeu pour les vététistes, fait mieux avec 10 médailles, mais seulement 2 en or. Pauline Ferrand-Prévot va bifurquer dorénavant sur la route. Sa nouvelle équipe sera annoncée pour viser une victoire dans le Tour de France 2025. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, le VTT est fini pour elle. La décision est prise depuis cet hiver. En course sur route, le Belge Remco Evenepoel, troisième du Tour de France 2024, déjà médaillé d'or sur le contre-la-montre, a dominé la course en ligne de toute sa classe. L'équipe de France masculine récupère 2 belles médailles, argent pour Valentin Madouas et bronze pour Christophe Laporte, et comble un vide de 68 ans depuis l'argent d'Arnaud Geyre à Melbourne en 1956, première médaille depuis l'ouverture des Jeux olympiques aux coureurs pro. Chez les féminines, l'Américaine Kristen Faulkner l'emporte devant la Néerlandaise Marianne Vos et la Belge Lotte Kopecky. La Française Julienne Labousse, quatrième du contre-la-montre féminin, termine 46e de l'épreuve en ligne. Grâce aux Jeux, Paris renoue avec la course cycliste. La discipline retrouve les quartiers populaires de la capitale. Le peloton olympique a posé ses roues dans le nord-est de Paris, explorant les collines de Montmartre, Ménilmontant, Belleville, pour un circuit qui fait saliver. L'occasion d'explorer ce paradoxe. Devenue l'une des capitales mondiales du déplacement à vélo, Paris est un terrain de jeu impossible pour les organisateurs de courses cyclistes, les deux phénomènes étant d'ailleurs liés. La règle connaît deux exceptions. L'arrivée du Tour de France, organisée sur un circuit entre les Champs-Élysées et les Tuileries, est conclue invariablement par un sprint massif, et le plus méconnu prix de Paris 14, course organisée vaillamment par le Club Paris Cycliste Olympique à l'ombre de la Tour Montparnasse, cette dernière course amateur qui a survécu à celle du canal Saint-Martin et des Gobelins disparus à la fin du XXe siècle. La rue Le Pic, c'était l'Alpe d'Huez de la capitale. Tous les petits prolos, les paysans, les ouvriers montaient à Paris et pouvaient accéder à une gloire directe par deux sports, la boxe et le cyclisme. Mais les idoles des femmes étaient les cyclistes. Les champions parisiens n'offraient pas juste une prestation physique, mais avait une répartie extraordinaire, une façon arrogante de parler, un peu drôle. Le cycliste pittoresque Louis Capu, 1921-1985, natif de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, joli palmarès bâti après-guerre, est l'incarnation de cette caste. Son fils Guy, mémoire du cyclisme francilien, rappelle que des années 1920 à la fin des années 1940, les formats ne manquaient pas. Course de côte, Tour des Maréchaux, Critérium dans le jardin des Tuileries, cyclocross autour de Montmartre, ou le temps d'une édition 1946, un critérium au Trocadéro, pour la première fois, et surtout pour la première visite en France et première victoire du surnommé Campionessimo Fausto Coppi. Le format le plus tardif, jusqu'en 1990, fut une course derrière Derny, sorte de motocyclette, réservée aux champions en fin de saison. Le critérium des As courut longtemps à Longchamp, puis à Vincennes, La Défense, et à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Le vélo avait depuis longtemps quitté Paris, si ce n'est pour l'arrivée du Tour de France. Le vélo, sport prolétaire parisien de l'entre-deux-guerres, est désormais un moyen de transport prisé des cadres supérieurs ou des livreurs de repas.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.